on est sœurs d'une certaine manière. Je suis Jenny Laurent Sylvestre et je vous présente mon mari, il est de ce côté, Coco. Je suis psychologue de formation et politologue de formation. Ces choix d'études étaient pires et calculés d'une certaine manière parce que je voulais aider mon prochain et je voulais aider mon pays aussi. Donc je m'étais dit que choisir la psychologie et la politique serait un atout pour moi en tant que jeune, en tant qu'avenir de mon pays que j'adore, que j'aime énormément. Et avant ça, je suis enseignante, j'enseigne au niveau secondaire et aussi je fais partie de, je m'investis pleinement dans les associations communautaires, dans les entreprises communautaires et c'est ça, je te donne la parole, merci.
Oui. Donc je fais rapidement la lecture de la biographie de Madame Sylvestre. Jenny Laurent Sylvestre, politologue de formation, diplômée en relations internationales. Elle poursuit actuellement des études en psychologie, une combinaison qui me permet d'aborder les problématiques sociales et humaines avec une perspective interdisciplinaire, selon Madame Sylvestre. Mon parcours académique et professionnel s'enrichit de certifications en techniques d'enquête communautaire ainsi que de formations spécialisées, notamment en équité de genre, coach en développement personnel, engagée activement dans la formation intellectuelle et citoyenne des jeunes. Je m'implique également dans des initiatives communautaires qui visent à favoriser l'autonomisation des individus, plus précisément des femmes, et à améliorer les dynamiques sociales. Je compte explorer un sujet profondément ancré dans les réalités humaines et socio-culturelles. Fardeau inconscient quand le trauma intergénérationnel façonne la jeunesse féminine. C'est le sujet du jour.
Merci, Jinan. Mesdames, messieurs, avez-vous déjà ressenti que certaines des luttes que vous menez ne sont pas les vôtres, mais plutôt celles de vos parents, de vos grands-parents, de vos grandes-tantes, ou du moins de votre grande-cousine? Cela ne vous est jamais arrivé? Bien sûr, nous sommes tous ici présents et nous portons tous des fardeaux qui ne sont pas les nôtres. Ces fardeaux sont construits comme un bagage appelé bagage émotionnel, bagage psychologique. Ce sont des blessures qui nous lient. Ces blessures-là constituent des chaînes qui nous emprisonnent, qui nous empêchent de construire notre avenir, un avenir serein, un avenir sûr, surtout pour nos enfants. Ces blessures-là, lorsque elles ne sont pas guéries, vous les transmettez à vos descendants, à vos filles et parfois aussi à vos garçons. Mais on va rester tout simplement dans la catégorie des jeunes femmes, des jeunes filles, des jeunes mamans et des jeunes mamans éventuelles. Pourquoi parler de ce trauma? Bien entendu, en psychologie, on appelle ces blessures, ces bagages émotionnels, traumatismes. Il y a une différence entre trauma et traumatisme. Okay. Le trauma, d'un point de vue dans les neurosciences, c'est-à-dire en neuropsychologie, neuropsychopathologie, on parle de trauma lorsqu'il y a une lésion au niveau des organes cervicaux, cérébrales. Okay? Mais le traumatisme est plus d'ordre psychologique, psychique et émotionnel. Les traumatismes sont des fardeaux inconscients parce que généralement, ils sont transmis de façon sans que nous-mêmes, nous autres, nous prêtons attention à leur existence dans notre vie. Et ces traumas-là, ils définissent notre vie. Ils définissent nos actions. Ils définissent nos comportements. Et bien sûr, ils sont présents dans nos relations amicales, dans nos relations amoureuses, surtout dans nos relations amoureuses et ce concernant notre cas, haïtiennes, des jeunes femmes haïtiennes, des jeunes filles haïtiennes. Ces traumas-là, ils sont présents dans notre vécu, dans notre vie professionnelle. Ils déterminent nos comportements, ils déterminent nos actions et nos décisions, c'est-à-dire nos choix. Donc un trauma peut, d'une certaine manière, nous aider à réussir et un trauma aussi peut nous empêcher de réussir et ainsi gaspiller votre vie. Bon, c'est une façon de dire. Avec un trauma, on peut être résilient, c'est-à-dire acquérir une force adaptative, mais aussi on peut détruire toute notre existence. C'est la raison pour laquelle nous parlons du trauma aujourd'hui. Entre autres, il y a quelque chose qui est très intéressant. C'est ce qui fait l'importance de ce sujet aujourd'hui, c'est notre passé. Un passé marqué par des blessures historiques. Il ne vous est pas sans savoir que nous sommes un peuple qui a été oppressé, assujetti. Et il faut dire qu'en réalité, rien ne nous est acquis. On a dû nous battre, pourquoi? Pour avoir ce qui, de droit, nous aurions dû avoir, c'est-à-dire la liberté. Donc, c'est ancré en nous que, quel que soit et le droit, que généralement, qui était naturel, nous devrions nous battre pour l'acquérir. La liberté est un droit naturel, mais pour l'avoir, qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû se battre au prix de nos sangs, au prix de nos aïeux, au prix de nos futures générations, de nos enfants. On a dû se battre. Donc, ça constitue d'une certaine manière un traumatisme pour nous autres Haïtiens, un traumatisme pour nous autres jeunes femmes, pour nous autres jeunes filles, jeunes mamans éventuelles. Et d'un point de vue historique, il y a certains auteurs qui définissent le traumatisme, et comme par exemple, nous pouvons prendre Cyrulnik. Nous pouvons prendre la méridienne qui s'appelle Marie Beauvort. C'est une méridienne, elle parle de traumatisme historique. Elle nous fait savoir que le trauma qui est défini généralement comme le trauma intergénérationnel, qui se définit généralement comme une transmission générationnelle de grands, par exemple, je prends l'exemple clair, je suis dans le cadre de traumatisme intergénérationnel des jeunes femmes. Mm-hmm. Ce trauma se transmet de grand-mère, d'arrière-grand-mère, à grand-mère, à maman et jusqu'à sa petite-fille, à la petite-fille. Ce trauma-là peut être un passé collectif aussi. C'est ce qu'on appelle le trauma historique à l'instar de Beauvort, okay. Marie Beauvort. Okay. Un trauma historique qui manque plus d'un, qui manque un peuple tout entier. Et dans le cas d'Haïti, nous sommes Haïtiens, dans notre cas, nous avons des traumatismes historiques. Mais dans le cadre aussi plus fermé, nous avons des traumatismes familiaux. Ces traumatismes familiaux, généralement, les femmes en sont les porteuses. OK? Les femmes, nous autres femmes, nous avons une double fonction. On apporte des blessures du passé. On apporte aussi la résilience et la force du passé. Nous sommes les porteuses de ces blessures. Nous sommes les porteuses aussi des forces adaptatives. Ce sont là les rôles des femmes. Nous allons voir ensemble... Par définition,
pour le travail de Madame Sylvestre, sa présentation est répartie sur 5 points capitales. Donc, nous avons le slide. Je ne sais pas si vous pouvez visualiser.
Entre autres, il faut ajouter que c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est de vous parler de ces phénomènes qui déterminent notre vie, qui nous déterminent, qui nous créent, qui nous donnent notre identité, mais généralement qu'on ne prenne pas réellement conscience de leur existence dans notre vie. Ces traumatismes-là sont, comme je dirais, invisibles, inconscients. C'est ce pourquoi ce sujet est titulé comme ça, les fardeaux inconscients, quand les traumas façonnent la jeunesse haïtienne. Bon, la jeunesse féminine, la jeunesse haïtienne. Par définition, nous avons que le trauma intergénérationnel, comme je le disais tantôt, c'est une transmission. Il y a Bruno Clavier, qui est un spécialiste en transmission générationnelle. Il nous fait savoir qu'on ne peut parler de trauma intergénérationnel sans prendre en compte l'épigénétique. Parce que les traumas intergénérationnels aussi peuvent être héréditaires. Il n'y a pas seulement l'aspect social, il y a l'aspect génétique et héréditaire des traumas. Okay? Mm-hmm. Et je dois aussi faire la distinction pour vous entre trauma transgénérationnel et trauma intergénérationnel. Les traumas transgénérationnels sont une sorte de trauma macro. En fait, ils englobent les traumas intergénérationnels, dans la mesure où les traumas historiques sont des traumas inter- et transgénérationnels. Les traumas transgénérationnels survolent les générations. Ils se transmettent à travers les générations, sans qu'il n'y ait pour autant d'interaction entre les générations. Par contre, les traumas intergénérationnels eux-mêmes, il faut qu'il y ait interaction. Par exemple, j'ai ma maman qui a été traumatisée, c'est-à-dire je parle de trauma non guéri, de blessure non guérie. Ma maman peut me transmettre son traumatisme. Ma maman peut me transmettre ses blessures. Si elle a été abandonnée par son conjoint, je peux, d'une certaine manière, par interaction avec ma maman, avoir ce traumatisme. Si et seulement si ce traumatisme n'est pas résolu. Si et seulement si ma maman vit avec moi dans le silence du trauma. Tout ce qui fait la force d'un trauma, c'est quoi? C'est le silence qui fait la force du trauma. Un trauma est fort, un trauma est puissant lorsque les personnes et en question, les personnes qui sont traumatisées n'en parlent pas. Ils prétendent que ce trauma n'existe pas. Ils vivent néanmoins peut-être bien dans le déni. Nous allons voir ça. On retourne dans la définition, on est toujours dans la définition. C'est une transmission de génération en génération. Le trauma intergénérationnel, c'est une transmission qui se fait à partir d'interactions entre les générations. Maintenant, nous regardons trois définitions d'experts en la matière, parce que généralement, ce sont des conférences qu'on fait là-dessus, des personnes qui se spécialisent là-dessus. Ce n'est pas un cursus à proprement parler, parce que ces blessures-là sont inconscientes. Bon, c'est ce qui fait la force aussi de la psychologie. Parce que la psychologie questionne des choses que le commun des mortels ne sait même pas son existence, ne connaît même pas leur existence. Donc, c'est ça. Nous avons le caractère historique du trauma qu'on voit avec Marie Brevoort. Nous avons aussi, j'avais déjà présenté ça, nous avons le trauma qui se transmet avec le silence de Boris Cyrulnik. Avec le silence, le trauma prend de la puissance, le trauma prend de l'ampleur et ses ancrages se fortifient, ses ramifications aussi se fortifient. Consolide. Donc, c'est ça. Et ensuite, en dernier lieu, nous allons parler avec Anne Anceli, qui nous fait savoir que le trauma, en fait, elle a écrit un ouvrage, vous allez voir ça, j'ai pris le soin de l'ajouter pour vous, c'est l'ouvrage Aïe, aïe, mes aïeux. Elle nous fait savoir que, le plus important, les traumas peuvent se transmettre par loyauté, je suis loyale à ma famille, aux valeurs aux valeurs pas seulement acquises, les valeurs auxquelles nous y adhérons, les valeurs que nous estimons qui font partie de notre identité. Et on sait pertinemment, même si je suis une personne à part entière, mais je dois faire preuve de loyauté envers ma maman. Ma maman avait dit, par exemple, c'est commun dans les familles haïtiennes. Mais même pas s'imiter avec garçon. Bien sûr, ça se dit souvent. Et puis moi-même, je suis tombée amoureuse de mon mari, mais il n'a pas d'argent. Donc je me dis, ok, je dois choisir. Est-ce que je dois prendre mon mari? Ou tu... Bon, il est mon mari maintenant. Non, je ne dis pas non plus qu'il n'a pas d'argent. Mais écoutez, généralement, on fait face avec ces genres de situations. Et c'est, c'est répétitif. Bon, ma maman s'est bien débrouillée avec un mec. Bien sûr, il n'y avait pas d'amour, mais elle était en sécurité. OK? Elle avait une stabilité financière, une stabilité sociale. Donc, je dois choisir entre l'amour et l'argent et la sécurité sociale. Donc, tout ça fait partie d'un trauma qui se transmet par loyauté. Exemple, il y a d'autres exemples que vous serez en mesure très bientôt de partager avec moi, parce que nous sommes tous, je le redis encore, nous sommes tous porteuses de traumas intergénérationnels et transgénérationnels. Okay? En tant qu'haïtien, nous sommes porteurs, je dis porteurs parce qu'il y a des garçons aussi, nous sommes porteurs des traumas, mais en tant que femme, écoutez, ce rôle nous incombe. En tant que femme, nous sommes porteuses de ces traumas. Et pour loyauté, on peut décider, ma maman, ma grand-mère, à un certain moment de sa vie, avait laissé son premier mari pour se marier avec un autre. Bon, je suis obligée de faire de même. Est-ce que je suis obligée de passer toute ma vie avec cet homme? Est-ce que ça ne veut pas dire de moi que je suis piégeux? Hein? Ce sont ces questions-là, ces blessures-là qui nous déterminent et qui nous façonne d'une certaine manière. Et la jeunesse féminine en Haïti aussi est façonnée par ces traumas transgénérationnels et ces traumas intergénérationnels. Et si on est ici, bien sûr, je le disais, si on est ici de cette transmission, bien sûr, les femmes ont un rôle. Un rôle dans ces transmissions. OK? Mais les traumas peuvent se manifester selon diverses manières. Je dois ajouter pour vous parce que nous sommes tous programmés de façon différente. Nous sommes tous et toutes différents. OK? Génétiquement, nous sommes différents. Même deux sœurs siamoises, là c'est une ou deux doses, même deux sœurs siamoises peuvent être traumatisées par les mêmes blessures, mais avoir des réactions différentes. OK? Et nous allons voir ça ensemble, les manifestations des traumas. Vous allez voir que généralement, il y a deux grandes possibilités de manifestation des traumas. Il se peut que vous reproduisez les mêmes erreurs que votre maman, votre papa, pardon, grand-mère, je dirais, de préférence, votre maman, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, votre cousine. Et il se peut aussi que vous vous dites, bon, OK, j'ai une construction sociale, j'ai été à l'université, ma maman n'a pas pu, bon, c'est une autre ère, c'est une autre génération, ma maman n'a pas pu aller à l'université. Maintenant, je sais réfléchir. Je vais faire tout ce qui est dans mes moyens, dans la mesure du possible, pour éviter ces mêmes erreurs. Et c'est à ce moment-là que nous définissons les deux grandes possibilités. Soit vous marchez dans le schéma répétitif, OK, vous reproduisez les mêmes erreurs. Par exemple, je prends un exemple clair. Il y a des exemples que j'ai préparés pour vous. On fait ça. OK, ça va? OK. Vous avez là une femme ayant vécu des années de dictature. Bon, c'est le contexte d'Haïti. Une femme ayant vécu des années de dictature en Haïti peut transmettre une hypervigilance, une méfiance à ses progénitures. Mais il y en a d'autres encore dans un cadre beaucoup plus restreint, un cadre familial. Par exemple, nous prenons une femme qui a été abandonnée durant... Bon, ma grand-mère a été abandonnée par son conjoint lorsqu'elle était en pleine césure de ma maman. Et ce même schéma s'est répété avec ma maman. Pendant que ma maman était en pleine césure, me portait dans son ventre, elle a été abandonnée par mon papa, bon, par mon géniteur. Et bien vous vous dites, bon, il se peut que cette même circonstance, même méfait, ce phénomène se répète en moi. Donc je vais faire de tout mon moyen pour éviter que cela arrive. Voilà. Et là, vous entrez directement dans ce qu'on appelle le paradoxe de l'évitement. À mesure, à force de trop vouloir ne pas répéter les mêmes erreurs que les générations précédentes, voilà, vous allez construire de nouvelles blessures.
Voilà. C'est okay? Comme forger une grande barrière qui est faite en carton. Quoi. C'est, ça va quand même se briser, c'est pas à solide. Quoi.
Oui, bien sûr. À force de ne pas vouloir répéter les mêmes erreurs que Jenan, ma grande tante, X madame, ma cousine, ma grande cousine, Y madame, ma grand-mère. Bon, OK. Je, par exemple, étant donné que ma maman a été abandonnée par mon papa, mon géniteur, ma grand-mère, elle aussi, ma grande tante, elle aussi. Bon, c'est un schéma répétitif de la famille. Donc, je vais éviter ça. Je ne vais pas faire d'enfant. Bon, OK, je serai méfiante, je serai très méfiante, hyper vigilante. Je ne ferai jamais confiance aux hommes, parce que les hommes sont les méchants. Tous les hommes sont les mêmes. Le schéma a été répété auprès de ma maman, auprès de ma cousine, auprès de ma soeur. Un exemple, clair? Non, je ne vais pas faire confiance. Et puis, il y a un beau petit bonhomme là, qui t'aime bien, qui veut construire quelque chose de bien avec toi. Et puis, tu te dis, Jennifer, attention, cœur reste à l'intérieur. T'aimes, on réfléchit. Ben oui, on va réfléchir avec la tête. On va éviter ce schéma. On va éviter que l'on soit abandonné. Et puis, il y a autre schéma répétitif aussi. Comme par exemple, toujours ce même cas de figure, mais au lieu d'avoir une position astro-extrémiste, vous vous dites, ben, OK, je vais prendre du temps. On va essayer de construire quelque chose. Mais avant qu'il fait sa mallette, je vais partir d'abord. Et puis un jour, ton mari a un petit problème ou bien ton petit copain a un petit problème. Et puis tu lui dis, bonjour chérie. Bonjour Jenny. Ah, il a un problème. Hey, il est sur le point de me quitter. Tu sais quoi? Je ne suis plus avec toi. Je m'en vais. Bien sûr, ça se répète. Pas vrai les hommes? c'est sûr, ça se répète souvent. Vous avez votre copine, vous avez un mal de crâne, vous lui dites, bon, je vais me reposer un peu. Et puis, de l'après-midi, elle t'écrit un long message. Tu sais, depuis un moment, tu as un comportement que je n'apprécie pas. Je sais que tu as une autre femme, donc avant que tu... Bon, elle ne va pas dire ça. Elle va dire, bon, j'ai trouvé quelqu'un d'autre, je laisse tomber, je ne veux plus rester dans cette relation parce que cette relation n'est pas saine. Mmh, et puis, elle s'en va avant même de prendre en compte qu'il se peut bien que vous l'aimiez, il se peut bien que vous ayez un problème. Ça ne rentre vraiment pas dans votre... comment dire ça? Votre projet de la laisser, de l'abandonner, mais... Étant donné que ces blessures sont là, ces blessures, bien entendu, qui ne sont pas les siennes. Est-ce que vous êtes là? Les blessures de sa maman, les blessures de sa cousine. Mais le même schéma va se répéter. Il va me loguer, mais je vais le loguer avant.
C'est oui? Dire qu'ils sont tous les mêmes, quoi.
Les hommes sont tous les mêmes. Il va m'engrosser et puis ensuite il va partir. Mais oui, sûrement vous vous posez la question, pourquoi Madame Paul ainsi? Et oui, j'ai été victime de cette blessure. J'ai été victime de cette blessure. Ce petit bonhomme-là m'aime énormément. C'est vrai. Il m'a demandé un mariage. Je lui ai dit, ok, bon, généralement, ma maman a été mariée, ma grand-mère a été mariée. Et ensuite, elles ont dû vivre dans des relations qui n'étaient pas saines. Pourquoi? Parce que, étant donné que ma maman avait déjà des enfants sur sa responsabilité, elle visait d'abord la sécurité de ses enfants. Mon papa, excusez-moi, ma grand-mère, la même chose. Et puis je me suis dit, bon, Jenny, tu vas entrer, tu vas répéter ce même schéma et tu vas te marier avec ce bonhomme. Non. Chérie, est-ce que tu veux m'épouser? Non, je suis une femme indépendante. Je n'ai pas besoin de me marier pour me sentir épanouie dans une relation amoureuse. Ça a été ma réponse, non. Je ne lui ai pas dit. C'était ma réponse. Et puis, ça m'a travaillé pendant des années. Pendant des années. Je lui ai dit, bon, je suis encore jeune. On va étudier la possibilité. Mais en attendant, il y a certaines choses qu'il faut gérer d'abord. Mais j'ai étudié la possibilité et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que j'étais traumatisée. Et ce trauma n'était pas le mien. C'était le traumatisme de ma maman, des femmes qui font partie de ma famille, mais pas la mienne. Et la blessure, alors, ce n'était pas la mienne. Et il y a d'autres exemples dans le cadre haïtien.
Les catastrophes naturelles.
Avant ça, je prendrai pour vous dans le cadre historique d'Haïti, les jeunes femmes en Haïti, et ça, bon, même si la femme est indépendante, même si l'homme a les moyens, la femme aussi possède des moyens, il y a un petit problème que plus d'eux d'entre nous n'en parlons pas. En fait, je suis coach en développement personnel, donc disons que j'ai beaucoup eu de ces genres de cadres de figures. Une jeune femme en relation avec un petit bonhomme, c'est pas mon cas en tout cas, en relation avec un petit bonhomme, elle aime bien ce petit bonhomme, mais étant donné qu'elle est universitaire, elle a étudié, elle peut réfléchir de par elle-même, elle se dit bon, il travaille pour tant d'argent. Je travaille pour tant. En fin de semaine, je rentre beaucoup plus que ce petit bonhomme-là. Mm-hmm. Je n'ai pas besoin de cadeaux entre ses mains. Je n'ai pas besoin qu'il me donne de l'argent pour aller me faire belle. Mm-hmm. Parce que je peux me faire belle de par moi-même. J'ai les moyens pour. Et puis, arrivant au moment de la relation, il se peut que la dame en question voit sa copine. Qui lui dit, oh, mon mari m'a offert ça, mon mari m'offre toujours des cadeaux, mon mari me donne de l'argent. Et puis tu te dis, pourquoi lui, ce petit bonhomme-là, il ne fait jamais ça? Chérie, pourquoi tu ne me donnes jamais de cadeaux? Mais non, tu l'as conditionné ici. Comment est-ce qu'il sera en mesure de t'apporter un cadeau si tu, dès le départ, tu lui avais dit que tu pourrais t'offrir ce que tu en avais envie? Et tu es là comme, en créole, on appelle ça des aiguilles, ou aiguilles, ce mot-là, parce que...
La créole, c'est français, c'est un tout
bel. Non, c'est l'expression, ou dire aiguille, ben oui, tu aimes ton ami, mais qu'il y a un nègre dans la ville qui n'a pas occupé, et puis pas même ami, ni ton fantôme n'est pas occupé. Mais non, tu n'as pas besoin de son argent, mais tu as besoin de quoi? Du geste, parce que tu es femme, tu aimes ça. Mais... La construction sociale, étant donné que tu veux éviter cette construction sociale, qui te dit que femme, tu... Bon, maman, quand on dit un bagaille, à ta gaz, à ta savon, Tu veux éviter que tu sois à ta gaz.
Voilà.
Ouais, c'est ça. C'est exactement
à
ça.
À ta gaz.
Tu veux éviter que tu sois à ta gaz, à ta savon, et puis tu te dis, bon, dès le Tibor, et cher monsieur, je n'ai pas besoin que tu m'offres de l'argent pour aller me faire belle. Je peux me faire belle. Je n'ai pas besoin que tu m'offres des robes. Je peux m'en acheter. Parce que tu es... Écoutez-moi, je vais prendre beaucoup de précautions pour dire ce que je vais dire. Je m'en excuse. Mm-hmm. Je m'en excuse d'abord. Il y a des femmes qui se cachent derrière le courant féministe. À cause des traumas. À cause des traumas. Moi-même, je suis femme. Je suis femme. Je prends beaucoup de précautions pour le dire. Parce que c'est un sujet qu'il faut prendre avec précaution. Ok? Je ne dis pas que le courant n'a pas toute sa valeur. Bien sûr, le courant a sa valeur. Ok? Mais il y a des cas particuliers aussi. Ok? Ces femmes-là, ben oui, étant donné que je dois être stricte, je dois être sévère, je suis autonome, donc je suis féministe. Sans que cette femme-là, ces femmes-là ne prennent du recul pour se questionner, mais c'est quoi ce mouvement? Quel était son objectif avant? Ok, je ferme la parenthèse. Ok? Mais c'est un sujet qui est très intéressant, c'est important. C'est important de prendre du recul. Madame Jenan, tu es féministe?
Merci.
Je suis féministe aussi, Madame Jenan.
Contente de savoir.
D'accord. Tu n'es pas d'accord?
Bon.
Madame Jenan.
Les avis sont partagés.
Madame, bien sûr.
J'y concède.
Madame
Mais
Jenan.
On ne va pas s'attarder là-dessus.
Là-dessus. Bien sûr. Madame Jenan, moi-même, j'aurais aimé donner un conseil avec tout le recul que cela demande. Mesdames féministes comme moi. Mesdames féministes comme moi, faites attention à ce que vous ne mélangez pas vos traumas avec le mouvement.
Bonsoir.
Ok? Ça, c'est un conseil que je prends du recul. Et je vous demande aussi de prendre un peu de recul pour comprendre ce que je dis. Parce que c'est important. C'est important. Prenez un peu de recul. Prenez un peu de recul. Est-ce que je veux... Je suis autonome. Très autonome. Je n'ai pas besoin d'un homme pour être belle.
Bien sûr, pour être femme.
Mais j'ai besoin, je suis femme, j'ai besoin qu'il me donne des petits cadeaux à un moment donné. J'ai besoin qu'il soit attentionné. J'en ai besoin. C'est pas parce que ma maman n'a pas eu ça de mon papa ou bien de mon géniteur que je dois m'en priver. Est-ce que vous êtes là?
Oui, oui, oui. Complètement.
On continue. Il y avait d'autres exemples. Mmh. Il y en avait d'autres. Mmh. Comme tu disais, les catastrophes naturelles,
oui,
bien
les
sûr.
Les catastrophes naturelles.
Les mamans, bon, c'est sûr que bon, vous faites tous partie de ma génération, avec exception près. C'est sûr que vous avez vécu le tremblement. Et je prends un exemple. Le tremblement du janvier 2010.
2006, oui.
Ça nous a tous traumatisés d'une certaine manière. Mais étant donné que les hommes ont une habitude, bon, c'est une norme sociale aussi.
Okay.
Okay? Les hommes ne peuvent pas faire passer ou bien dans les silences, dans leur silence, faire passer leur traumatisme, leur blessure. Ils sont généralement obtenus d'être forts. Okay? Même si je viens de perdre ma maman, ma femme pleure, donc je dois être fort. Okay? Je ne dois pas pleurer parce que je suis un homme. C'est une norme sociale.
Oui, c'est vrai.
C'est une norme sociale.
Il y a des cas.
Pardon?
Un homme ne doit pas pleurer.
Ah, voyez, il vient de dire qu'un homme ne doit pas pleurer.
Mais
tu entends, chérie? Oui, c'est juste une blague. C'est juste une blague. Écoutez bien, ces normes sociales là aussi sont de même pour les femmes. C'est ce pourquoi les femmes en sont les porteuses. Parce que généralement, on nous fait savoir que nous autres femmes, nous devrions faire étalage de nos sentiments. Ok? Nous sommes la gente faible. Bon, si ça, c'est une
selon
norme
le
sociale.
Patriarcat.
Selon le patriarcat,
oui.
Okay? Une gente faible.
Oui.
Donc, on doit faire étalage de nos sentiments.
Voilà.
Mais ce n'est pas forcément ça. Mais on parle de culture aussi.
Bien sûr.
Ça, c'est ancré dans notre culture. Et c'est ce pourquoi les femmes en sont les porteuses des blessures. Les femmes portent les blessures, la résilience aussi. Mais les hommes aussi, ils portent les blessures d'une certaine manière. C'est pas méchant. Donc, on ne va pas entrer de ça. Mais d'une certaine manière, c'est ça. Donc, pour les catastrophes naturelles, les mamans, les grandes tantes, les grand-mères ont transmis leurs blessures, leurs peurs d'insécurité aux générations qui ont suivi. À moi-même, j'ai, avec un regard de ma maman, mon papa, ma grand-mère, excusez-moi, bon, je parle tout le temps de mon papa, c'est la raison pour laquelle. Ma maman, ma grand-mère, elle me fait savoir sans le dire, c'est ça le pire, sans le dire, elle me fait savoir à n'importe quel moment, je suis bien aujourd'hui, à n'importe quel moment, comment dire ça, je vais perdre mon aise, à n'importe quel moment. Un problème, un phénomène peut survenir et que je peux avoir de l'argent aujourd'hui et à n'importe quel moment je peux perdre tout mon argent. Il y a un exemple qui est ancré dans notre vie, c'est nos grands-mères. Étant donné que généralement nos grands-mères ont vécu beaucoup de pauvreté et c'était bien pire que nos mamans et encore moins pour nous. Okay? Et elles ont toujours peur de la précarité. Et ce sont des blessures qui sont vraies. Les grand-mères vous disent, hey, tu gagnes 10 dollars par mois, économise 7 dollars. Est-ce que vous voyez? Tu gagnes 20 dollars par mois, économise 12 dollars. Il faut économiser plus d'argent, le plus que possible. Parce qu'à n'importe quel moment, vous pouvez tout perdre. Parce que nos grand-mères ont vécu sur des régimes politiques assez rigides. Donc, elles savent exactement de quoi elle parle. Mais il se peut bien que ce ne soit pas notre cas. Il se peut bien que, étant donné que nous soyons beaucoup plus avancés, notre génération est beaucoup plus rénovée, innovée, qu'on sait comment agencer nos épaules, on sait comment agencer nos avoirs, sans que, pour autant, à un moment donné, nous perdons tout ce que nous possédons. Donc, ce sont ces traumatismes-là qui nous façonnent. Ces traumatismes-là qui nous lient, qui nous empêche de construire un avenir serein. Comme j'avais dit, nous femmes, nous autres femmes, porteuses d'espoir, porteuses de blessures, nous autres femmes, nous avons aussi la force, la possibilité de briser ce cycle infernal. Pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Et comment est-ce que nous pouvons briser ce cycle? Comment pouvons-nous nous libérer de ce fardeau inconscient? Comment pouvons-nous nous libérer de ces chaînes qui nous entravent, qui nous lient, ces chaînes qui sont invisibles? Comment pouvons-nous le faire? Bon, il n'y a pas, comment dire ça, une solution toute faite, parce que nous sommes tous différents. Nous sommes tous programmés différemment. Mais il y a des pistes de solutions. Il y a d'énormes pistes de solutions. Et la première chose, c'est d'identifier le trauma. Je le dis toujours, un problème identifié est un problème. Pardon? Merci, aidez-moi. Un problème identifié, c'est un problème à moitié résolu. Un trauma identifié est un trauma qu'on est sur le point de guérir. C'est faire quoi? C'est d'abord identifier le problème. Mais c'est pas comme dans la vie courante, parce que n'oubliez pas, on parle de faculté cognitive, on parle de psychologie, on parle de psyché. C'est pas dire que bon, ok, je vais ouvrir mon livre pour identifier le problème. Je vais aller dans une rencontre pour identifier le trauma. Non, c'est pas ça. C'est pas seulement ça. C'est ça aussi, mais c'est pas seulement ça. Pour identifier le problème, il faut sortir du silence. Il faut sortir du silence. Et c'est ce que moi-même, j'ai fait. Et je fais encore. Et je ferai demain. Encore et encore. Je vais sortir du silence. Libérer son expressivité, se libérer du silence. Et comment se libérer du silence? Bien sûr, vous vous posez la question. En parlant de ce qui vous fait mal. Ça ne vous est jamais arrivé que vous levez un bon matin et puis vous vous dites, bon, je ne sais pas ce que j'ai, mais je ne suis pas d'humeur, je suis fâchée, j'ai un problème. Et puis, vous trouvez un ami ou une botte, une amie, et puis vous parlez de tout et de rien. Et puis, à un certain moment, vous vous dites, ah bon? Mais ça peut dominer, oui. Et puis, vous remarquez que ce quelque chose-là qui vous dominait n'était en fait rien du tout. En fait, rien du tout. Et pour briser le silence, il faut parler. C'était évident aussi, c'était évident qu'il faut briser le silence, il faut pas. Mais il ne faut pas parler n'importe comment. Il y a une façon de faire. C'est de trouver, bon, en fait, je parle pour les femmes.
Bien sûr.
Trouver, construire des ateliers entre nos autres femmes, parler de ce qui nous dérange, parler de ce qui font surface, parce que le trauma, c'est comme un iceberg, ok? Il y a une partie que l'on voit, et la plus grande partie, la partie la plus importante, ce sont les parties que nous ne voyons pas.
Au fond.
Bien sûr, voilà. Ce sont les blessures qui sont
en profondeur, ancrées
et ramifiées. Il faut ajouter, ces blessures sont ramifiées, sont partout, ok? Il faut parler, il faut construire des ateliers pour les jeunes femmes, pour la jeunesse féminine. Un espace serein, un espace qui leur permet de s'exprimer, ok, de tout et parfois aussi de rien, parce que c'est là que nous allons faire un pas vers la guérison. Et il y a aussi des personnes qui me disent, bon, j'avais posé cette question avec un groupe de femmes et la majorité d'entre elles me disaient, ben, Madame Jenny, je suis une personne introvertie, je n'aime pas parler, je n'aime pas que les gens savent ce qui me dérange, parce que généralement, bon, c'est aussi encore une norme sociale. Les gens ne regardent pas, ils ne savent pas penser qu'il y a des problèmes. Et puis quand il y a des gens, ils ont des problèmes.
Ils ont dérangé, voilà. Et le plus souvent, c'est Mounou et Caprio qui ont plus de problèmes.
Vous avez combien de ne pas se confier à n'importe qui?
Oui, bien sûr.
C'est de savoir à qui on va parler de cette personne-là.
C'est former des groupes, des ateliers avec des personnes compétentes à la matière qui pourront aider.
Oui, ça c'est une solution macro. Mais aussi, il y a d'autres solutions. Il y a des solutions beaucoup plus restreintes. Vous avez votre cousine, vous avez votre petite fille. Et c'est ça le plus important. C'est d'éviter de transmettre ta blessure à ta petite fille ou bien ton éventuelle petite fille. Ok? Tu as ta maman. Tu sais que ce trauma provient, ok, de ta maman ou de ta grand-mère. Ah, mais tu lui en parles. Tu lui en parles. Ou bien vous restez confort chez vous et puis vous vous questionnez. Pourquoi ça me dérange? Pourquoi ça me dérange? Est-ce que j'ai vécu un choc pareil? Mais non, c'est ma maman qui avait vécu ce choc. Je vais lui en parler. Maman, comment est-ce que tu as pu t'en guérir? Et puis vous allez voir qu'il se peut que jusqu'au moment où vous parlez avec votre maman, elle n'est pas encore guérie de ce trauma.
Bien sûr.
OK? Et vous serez en mesure de l'aider. Il y a Bruno Clavier qui nous dit que dans une œuvre, lorsque les enfants essaient de guérir leurs parents, vous voyez, l'enfant sait tout. L'enfant sait tout dès sa naissance. Le problème, c'est que l'enfant n'est pas en mesure de comprendre ce qu'il sait. Le bagage intellectuel qu'il a, il n'arrive pas à trouver les mots pour il est scotché, ok? Pour les étiqueter. Et puis, généralement, pour vous autres qui avez déjà des petits-enfants, des enfants, il y a une question, généralement, qu'on prend, qu'on passe à la dérision. C'est lorsqu'un enfant vient auprès de sa maman et te dit, maman, ça, le vagin, bon, et l'enfant ne connaît pas le mot, ça sert à quoi? L'enfant a déjà la réponse. Maman, pourquoi mon papa porte un pantalon et toi une robe? L'enfant connaît la réponse. Le problème, c'est que l'enfant n'est pas en mesure de comprendre ces informations. Et lorsque vous restez dans le silence, vous n'exprimez pas avec exactitude vos ressentis, ces ressentis se transmettent et dérangent l'enfant. Il y a encore, je crois que c'est toujours Bruno Clavier qui nous a raconté c'est une anecdote. Bon, c'est pas une anecdote à propos de mon palais, c'était d'une séance avec un patient. Il y avait une famille, un papa et une maman, qui avaient apporté son fils, qui avait des troubles de l'apprentissage. Bon, plusieurs troubles. Il y avait des troubles d'apprentissage, des problèmes d'inhibition, et l'enfant ne cessait de se cogner la tête. Et puis, Bruno Clavier nous dit qu'après plusieurs séances, il a réalisé que l'enfant, en réalité, n'avait pas de problème proprement et lié à lui-même. Et puis, il s'est dit, bon, je vais changer de stratégie, je vais essayer de parler aux parents. Et puis, il a questionné les parents, il leur, Il a dit, est-ce que vous avez un problème, problème financier, problème de sécurité sociale ou autre? Et puis, les parents ont répondu tout de suite après qu'ils n'avaient aucun problème. Vous allez voir ça. Avec moi, bien sûr, les parents étaient, n'avaient vraiment pas de problème et financier ou du reste problème de sécurité sociale, entre autres. Mais l'enfant était, c'était le deuxième frère jumeau de notre enfant. Et le psychologue, Mounoka Lavier, il a demandé à la maman et au papa, est-ce que c'est la première fois qu'il y a des naissances de jumeaux dans la famille? Et puis, la maman a répondu, dans ma famille, il n'y a pas de jumeaux. Le papa s'est souvenu à un certain moment, il y avait sa grand-mère qui avait fait une portée de jumeaux, mais il ne se souvenait pas réellement. Et c'est à ce moment que la dame a répondu et puis elle a dit que ben oui, ta grand-mère m'a raconté l'histoire. C'est que il y avait le premier qui était sorti en premier, il était en bonne santé. Le second avait un petit problème au niveau du cœur et 5 ans après, il a succombé à cette maladie. Ben, vous voyez, le problème, c'est que ce qui est intéressant de cette histoire, c'est que le papa portait cette blessure sans le savoir. La maman aussi avait eu peur, avait été traumatisée par cette histoire lorsqu'elle a su qu'elle portait des jumeaux. Voyez? Okay. Mais elle, et la famille, le papa et la maman n'a jamais parlé de cet événement dans la famille. Mais l'enfant le savait. Et c'est à ce moment que le psychologue leur a dit de parler de ça au petit. Et puis ils ont pris le petit, ils ont parlé, ils ont raconté l'histoire. Et ils l'ont expliqué aussi que la raison pour laquelle le second enfant à l'âge de 5 ans, il faut noter que l'enfant allait avoir ses séquelles. Okay? Et c'est à ce moment que la maman lui a dit que le problème c'est que à ce moment-là, cette période de la durée, la technologie, la médecine n'était pas aussi avancée pour prédire que l'enfant avait des problèmes cardiaques et que le petit en question n'avait rien à créer parce qu'il n'avait rien. On lui avait tout diagnostiqué, il n'avait rien et qu'il va vivre au-delà de 5 ans. Et à ce moment-là, et Bruno Clavier nous fait savoir que le petit a été guéri. Il a été guéri de cette blessure que sa maman portait, que son papa savait mais avait oublié. Vous voyez? Le petit était porteur de cette blessure. Donc, en parlant de nos blessures, de nos traumas, on peut en guérir. D'ailleurs, on va en guérir. Et pour les personnes qui sont introverties, il faut chercher où vous avez hérité de ce trauma. Est-ce que c'est du côté de ma maman, de ma grand-mère, de ma cousine? Il faut chercher d'où provient ce trauma. Ce trauma est de qui? Ok, cette personne-là, je vais lui en parler, je vais lui dire qu'elle est porteuse de trauma. Et on va discuter et on va voir que ce problème n'est pas réellement un problème. On peut gérer ce problème à nous deux ou bien toute seule. Et puis, une fois guéri, on n'allait pas transmettre cette blessure à la génération suivante, à la jeunesse suivante. Vous n'allez pas transmettre cette blessure à la génération suivante. Donc, c'est ça. Et mesdames, messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de mon exposé. On va discuter.
Oui.
Oui, vous allez avoir. C'est ce pourquoi je fais assez rapidement. Il y a beaucoup à dire. Okay? C'est un sujet très, très intéressant. Mais maintenant, vous êtes en mesure de savoir que ce phénomène existe. Et étant donné que vous êtes en mesure de prendre connaissance, excusez-moi. Merci, excusez-moi. Étant donné que vous êtes en mesure de connaître ce phénomène et que vous savez pertinemment que vous êtes aussi porteuse de blessures, vous toutes qui êtes présentes aujourd'hui, vous êtes porteuse de blessures, et vous êtes aussi en mesure de vous en guérir. Ok? Vous êtes en mesure de vous débarrasser de ces chaînes. Vous êtes en mesure de vous débarrasser de ces fardeaux inconscients. Et vous êtes en mesure de construire un avenir beaucoup plus serein, un avenir beaucoup plus sécuritaire pour les générations éventuelles. Ok? Ça va dépendre toujours si vous voulez avoir des enfants, mais si tel est le cas, vous devriez faire ce petit travail. Bon, je ne vais pas dire que c'est un petit travail.
C'est tout un boulot.
C'est tout un boulot. Ok, un boulot de chaque jour. Parce que n'oubliez pas, les traumas sont bien là. Les traumas sont partout, dans nos comportements, dans nos vies professionnelles, ok, dans nos vies amoureuses. Les traumas sont là. Il faut faire le boulot. C'est un boulot qui nous écope. Comme manger, comme dormir, comme prendre et sommeil. Non, bien sûr, comme prendre sommeil. Donc, c'est un boulot qui nous écope.
Le bien-être, quoi.
Bien sûr, il faut le faire. Donc, merci.
Donc, merci beaucoup, Madame merci, Sylvestre. Je pense après ça, là, en pile de nous qui ne pas identifier que nous sommes traumatisés, nous commencer sur bonne voie, là. Et bon, nous pas trop arrêter dans les commentaires, donc je les prends rapidement et les questions aussi, si vous en avez. Oui, madame.
Juste un commentaire.
Non.
Je vous félicite parce que c'était très agréable. Vous avez eu pas trop long.
Oui, oui.
Et le commentaire que je voulais faire, c'est de croire que. On parle de trauma, mais on parle de souffrance. Mm-hmm. Donc, le traumatisme, ça dépend de la façon dont on est en charge, etc. Ça, c'était au début. Okay. Au début, de position. Et, il ne faut pas les confondre. Mm-hmm. Le traumatisme n'est pas obligé de faire partie d'une thérapie dans les gens. Mm-hmm. À l'époque de du temps, etc. Mais tout ça pour vous dire qu'à part cette petite chose-là, je vous félicite. Vous, ah oui, il y a une chose. Quand vous parlez de traumatisme, vous parlez de. Il ne faut pas confondre une personne et la maladie.
Trauma et traumatisme. Trauma et traumatisme. Je l'avais fait tout au début.
Il avait fait. Mais ceci dit, vous faites du bon travail, je vous félicite.
Merci. Donc, pour les questions, si vous en avez.
Je crois une minute.
Oui.
Ok, merci. Merci, madame. Merci. Bon, il se peut que cette préoccupation était la préoccupation de plus d'eux dans cette salle. Bon, ici que ça. Donc, sachez qu'un trauma, un traumatisme, je parle de traumatisme, j'avais fait la distinction pour vous entre trauma qui est une lésion au niveau des organes cérébraux et le traumatisme qui est un ensemble de bagages psychologiques, émotionnels et voire psychiques. Maintenant, un trauma guéri n'apporte pas ou bien n'engendre pas ou bien ne génère pas de souffrance. Mais un trauma non guéri, ok, est généralement synonyme de souffrance. Ok? Donc, c'est ce que j'avais dit. Donc, merci encore. Merci.
Merci, madame. Donc, pour la question, vous en avez?
Bien sûr.
D'autres commentaires?
Moi, je viens à l'état. Est-ce que ça n'a pas fait rien? Je viens à l'état.
Bien sûr, bien
parce
sûr.
Que
bien sûr.
Bien
sûr.
Conclusion,
bien sûr.
Ah, ok. Alors. Une jeune conclusion, non? Même pas poser des questions à partir de ça, m'entendez.
Okay.
C'est qu'un coup, une bonne démarche pour me faire, pour me jouer un équilibre dans la société à l'individuel. C'est qu'un coup, ça m'entendez, c'est qu'un coup, pas gagner un phénomène pour la société à lui-même résoudre avec lui. C'est que solution, c'est à concours, c'est cas individuel seulement lié, et puis ça, mon petit général. Merci.
Ok, très bien, excellente question, c'est très important. Donc, si je comprends bien, c'est que vous voulez savoir, est-ce qu'il y a des possibilités pour que la société, le collectif, puisse trouver des pistes de solutions. Donc, c'est ça.
Non, la société a à trouver sa piste de solution en dehors de l'individu.
Non,
sauf
erreur de ma part, je ne comprends pas trop bien la question.
Non.
Non, c'est important de débattre. Ah, oui. J'aime ça.
Non, c'est que dans une société, les individus portent leur traumatisme, portent leur trauma.
Bien sûr.
Mais, et ah oui. Et traumatisme, ça, c'est pas nécessairement. C'est des environnements sociaux qui capotent. Et c'est la société pour résoudre. Ce n'est pas rôle gardé. Individu a des démarches pour chercher résoudre le problème individuel. Mais il y a un travail qui pourra faire dans la société, un travail macro qui pourra faire. Yes.
Ok, d'accord, merci. Mm-hmm. Non, oui, je disais, autrefois que il faut construire des ateliers pour que les femmes puissent avoir la sécurité, la possibilité de s'exprimer. En fait, le sujet, je vais reprendre pour vous, le sujet c'était fardeau inconscient quand le trauma façonne la jeunesse haïtienne, la jeunesse féminine, la jeunesse haïtienne.
Bien dit, jeunesse. Jeunesse, ça veut dire la jeunesse haïtienne, il y a jeunesse et puis il y a haïtienne, ça veut dire c'est une considération macro.
Okay. Voilà. Et comme je le disais tantôt, c'est un sujet qui se base sur la psychologie. Il faut savoir que pour guérir un trauma collectif, il faut d'abord guérir le trauma individuel. On peut guérir un trauma collectif sans passer par l'individualité. Donc, pour essayer d'apporter des pistes de solutions, c'était clairement, bon, c'est pas exhaustif, il faut dire que les ateliers, la société haïtienne, je mets ça dépendamment des missions de certaines organisations, pourraient instaurer des ateliers, okay, des espaces en toute sécurité pour que les jeunes puissent avoir la possibilité de partager leurs blessures et d'en guérir. Merci.
Si je dois rajouter quelque chose, je dirais que pour les traumas, je vais prendre un cas de figure, avec jeunes nous là, qui a vive l'insécurité, Macron nous là, dans le moment.
Yes, yes, yes.
Nous pas très fond dans la situation. Hein? Mm-hmm. Et côté les pas possible pour nous faire ça nous dire, pour nous faire atelier, pour nous chita parler avec jeunes, que non, nous clair que y a souffri. Donc, clair que vous avez besoin d'assistance, non. Il n'est pas possible. Là, nous devons faire un appel à la conscientisation. Nous devons connaître que dans le moment, nous pas qu'à résoudre, nous pas qu'à toucher mental et jeunesse, mais nous faisons façon. Nous garder comment nous avons fait. Pour nous au moins atténuer la douleur. Là, nous avons plus de sécurité dans la chita sur le global. Mais là, c'est un travail individuel, nous chacun fait. Nous chacun pour aller essayer ouais, comment nous avons sauver jeunesse nous, hein. Comment nous capoter un certain équilibre pour eux, comment nous capoter assistance, parce que j'ai une situation il y a là, les clés, même si nous avons fait on travail collectif, pas dire impossible, mais c'est difficile.
Mais le travail collectif là dépend du travail individuellement. Et d'ailleurs, ce que je dois dire, c'est que si l'État devrait vraiment entrer dans ce sujet pour guérir ce phénomène, l'État devrait mettre des mécanismes pour éviter ces genres de phénomènes. Okay? Au lieu de voir que l'État ou bien la société devrait apporter des pistes de solutions, l'État ou bien la société devrait faire en sorte de prévenir, de prédire ces phénomènes avant que ces phénomènes arrivent sur la jeunesse haïtienne. Et comme je le disais tantôt, il faut prendre en considération ça. Il faut guérir le trauma individuellement d'abord. Parce que, écoutez-moi, monsieur. Écoutez-moi aussi, mesdames. Le trauma, nous sommes tous différents. On ne va pas trouver de solution collective. La solution doit être individuelle. D'abord, regardez, j'ai guéri quelques de mes traumas et je peux vous en parler. C'est parce que j'ai pu les guérir. Sinon, je ne serais pas en mesure de vous aider. Mademoiselle, Madame Jinan, ma soeur, Madame Jinan comme moi, elle peut parler de trauma qu'elle a déjà guéri. Elle ne peut pas parler de trauma qu'elle n'a pas encore guéri. Parce que la possibilité d'expression est déterminante. Elle dépend nécessairement du premier point, c'est repérer le trauma. Nous n'avons pas tous les mêmes traumas. Je parlais d'un point de vue général. Les traumas se divergent et les traumas se manifestent différemment aussi. Ok? Donc merci.
Oui. Avant même de prendre le dernier commentaire, je voulais saluer le professeur Sandy Larose, qui était en ligne avec nous, mais il est un peu en retard. Donc, c'est un psychologue social. Professeur Larose, c'est lui qui m'a permis de rencontrer Madame Sylvestre. Monsieur Larose, on vous fait un petit coucou, on vous dit salut.
C'est un prétexte pour me faire fini.
Oui, j'allais finir. Donc, merci parce que nous t'es en pile là qui t'es participé avec nous dans la conférence ça sous sujet quand le trauma intergénérationnel.
Fardeau inconscient, voilà. Quand le trauma intergénérationnel façonne la jeunesse féminine.
Donc,
c'est seulement avec ça que je suis pas d'accord.
Oui.
On va finir. Si on se rencontre un jour, on a parlé.
J'aimerais bien.
Seulement avec
la personne d'accord
dans votre vie.
Donc, oui.
Pour une petite intervention de vous. Non, on ne peut pas. Il est quelle heure?
10h58.
Ah oui, on a fini. Allez, vas-y, je vous
oui,
laisse finir.
Oui, donc, on vous dit merci et puis à bientôt.
Ok.
Merci,
vous allez nous attendre. Merci beaucoup pour cette conférence. On va continuer là-haut, mais vous m'attendez parce qu'on va prendre. Il faut juste vous mettre debout, comme ça on prend quelques chaises pour installer là-haut. Le spectacle va commencer en déambulation. Il va falloir attendre la danseuse pour monter avec elle. Et je vous annonce aussi que ce format que vous allez voir, c'est un format fait pour. Ici, le spectacle a été joué au Festival des Francophonies en Limousin et la metteur en scène a accepté de faire une version pour nous. Voilà, que vous allez voir. Donc, vous m'attendez au bas de l'escalier pour suivre avec moi Claire Mesnil.
Le rôle de la société, c'est de faire des mises en place pour ne pas créer des traumas.
Mais pour revenir.
Non, pas pour. Oui, vous avez dit, pour faire une société épanouie.
Bien sûr, bien sûr.
Société, là, par exemple, pour l'intéresser dans la question de trauma, ça c'est le rôle psychologue. Là.
C'est évident.
Vous comprenez? Même qui dit ça. Vous comprenez?
Vous
comprenez? Mais c'est vrai.
C'est ça. Moi, j'aime discuter.
Il y a plusieurs auteurs qui travaillent sur
ça. J'aime discuter avec les gens.
Comment j'étais venu. Ça va? Merci pour la conférence.
Camarade, ça va?
Oui, l'aspect collectif. C'est très important.
Ah oui, oui, oui.
Si tu vois Achille Mbembe qui travaille sur la post-colonie, qui regarde comment les sociétés se reconstruisent après la colonisation.
Exactement. Mais ça peut être là, par exemple.
Qui parle à la fois de la mémoire collective, de la mémoire individuelle. Comment tout le monde, tout ça, comment vous façonnez la vie. Alors, bon, l'autre auteur qui travaille sur.
Il y a Achille Mbembe.
Qui travaille sur schizophrénie.
Qui travaille sur schizophrénie.
Mais qui montrait que pour guérir des fois.
Ah, je vois ça, oui, c'est Francis Cousin.
Pour guérir tout environnement.
Ok.
Tu vois, c'est-à-dire pour guérir le monde, il faut guérir l'environnement immédiat. Donc, ça, oui, c'est le aspect extrême. Comment guérir l'individu sans guérir son environnement.
Comment guérir
l'individu sans guérir son environnement.
C'est l'inverse, tu vois.
Bon atelier pensé.
Non, mais parce que,
bon atelier pensé
parce que la personne va revenir dans le même
et puis, il y a un qui fête Sénégal. Mais le groupe qui réunit Matinique,
bon ici là dedans on pas jamais d'accord
avec mettez pas dit ça
non parce que les consommateurs
elle ça elle s'appelle Judith Blanc.
Pour quelle raison comme si
pas grand phrase je dis d'accord avec c'est pas grand pas grand question de raison ou pas
non bien sûr pas de raison c'est pas bon raison parce que si mon ami dit de bonnes choses on ne toujours pas d'accord avec personne non on d'accord avec ça
dit
bien sûr pas d'accord avec ça dit c'est parce
que c'est une parole
Ça, c'est pour technicien qui a enregistré.
Est-ce que je peux prendre ça?
Bien sûr.
Merci.
C'est la vie. Hein.